J'ai choisi aujourd'hui dans Jardin d'Isis de présenter la maison d'édition Sans Escale. Cette maison d'édition, j'ai demandé à Valérie Mollet de nous en parler. Valérie Mollet, je l'ai reçue dans Jardin d'Isis le 11 octobre 2018 pour sa poésie et aussi pour nous parler de ses romans et nouvelles. Mais je l'ai invitée aujourd'hui autour de son travail d'éditeur. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous avez, en équipe, décidé de créer une maison d'édition. Pouvez-vous nous parler de ce qui a motivé cette décision ?
Bien, écoutez, comme toute décision, elle est motivée par plusieurs aspects. D'une part, par une ambition, évidemment, quand on est éditeur, notamment démesurée, et puis par un projet simple, pour être plus prosaïque. À la fois, on avait cette envie d'avoir des écrivains contemporains, vivants, parce que il y a beaucoup d'écrivains évidemment qui sont publiés, qui sont déjà morts. Nous souhaitions n'avoir que des gens qui ne sont pas encore dans le cimetière et qui avaient ou beaucoup publié. C'est le cas d'un certain nombre de nos écrivains comme François Mourlet ou Mathias Lair, ou des gens qui n'avaient pas du tout publié ou très peu. C'est le cas du troisième roman que nous avons publié, à savoir Maximilien Frisch. Et donc on souhaitait avoir une littérature à la fois très exigeante, assez neuve, très contemporaine, sans être totalement hermétique, pas du tout hermétique d'ailleurs, et on est parti d'une devise amusante qui était de dire qu'il fallait du risque avant le cimetière, et une équipe modeste, nous étions quatre, et nous sommes toujours quatre en activité, tous bénévoles, puisque l'association porte la maison d'édition, une association porte la maison d'édition Sans Escale.
Pouvez-vous développer un peu autour de cette équipe que vous avez mise en place ?
Oui, bah, on a une équipe, on a donc quatre lecteurs qui sont aussi des techniciens, puisqu'on a une personne qui s'occupe des sites internet, de la mise en page, une maquettiste, et puis deux personnes qui s'occupent de lire les manuscrits. On reçoit énormément de manuscrits, puisqu'on en a reçu en 2019 plus de 150, alors même que nous sommes une toute nouvelle maison d'édition, puisque nous avons été créés en 2018.
Alors, vous publiez à la fois de la poésie et des romans. Pouvez-vous nommer les titres qui ont déjà été mis sur le marché, les parutions à venir aussi ?
Alors, pour l'instant, nous publions que des romans et des nouvelles, mais nous ne désespérons pas de publier de la poésie. Les titres qui ont été publiés, donc je le disais, c'est ceux de François Mourlet, La langue de ta main noire. Je crois que vous avez lu à un moment donné dans une de vos émissions. Mathias Lair avec Reste la forêt. Donc deux écrivains qui sont très confirmés. Ensuite, Maximilien Frisch qui a écrit L'impasse du salut, qui est à mon avis un très grand romancier. Et nous allons publier trois nouveaux romans qui paraissent là actuellement au mois de janvier. Un roman de Valérie Zapir, un roman de Brigitte Gire, et un roman de Tristan Ledoux, et nous allons également publier Elisabeth Morcellet, un roman qui s'appelle Ne jamais en finir, et voilà, c'est à peu près le programme, donc trois romans nouveaux, plus trois autres romans dans un avenir très proche, et au mois de mai.
Pour ce qui est de La langue du tamar noir, j'avais lu des extraits dans les billets d'humeur qui ont été diffusés en mars 2019 sur Radio FM+. Il s'agit de, en présentation brève, on pourrait dire, de l'éloge de la promenade et de l'observation de la botanique. François Mourlet dans La langue du tamar noir, paru aux éditions Sans Escale, effleure la botanique au fil de ses promenades, avec maintes anecdotes et remet en lumière un savoir ancestral aujourd'hui oublié. Il nous renseigne, ce faisant, sur les vertus pharmaceutiques de nombreuses espèces. C'était un petit rappel. Quant aux publications des éditions Sans Escale, elles sont diffusées à on peut les retrouver sur internet, mais aussi en librairie. Est-ce que vous avez des sites sur lesquels on peut retrouver les éditions ?
Oui, tout à fait. J'ai oublié un auteur qui est publié également au mois de janvier, c'est Xavier Grossi, avec un roman qui s'appelle, enfin, un recueil de nouvelles plus exactement, qui s'appelle De l'ombre. Et nous aurons aussi un autre roman de Patrick Contré, très prochainement, sous presse. Alors, pour retrouver les éditions, les éditions sans escale, c'est relativement simple. Vous les retrouvez dans toutes les bonnes librairies, puisque nous avons un diffuseur distributeur qui s'appelle Dodin. Et vous les retrouvez évidemment à la fois sur le site des éditions sans escale et sur les sites internet traditionnels, la FNAC, Amazon et tous ces sites bien connus du public.
Maintenant, dans une démarche d'auteur, pour être publié, quelle est la procédure? Il y a le comité de lecture, pouvez-vous nous parler des délais approximatifs et évoquer certains détails pratiques?
Alors, oui, pour les délais de lecture, ils sont relativement longs, puisque on a une équipe modeste, comme je vous l'ai dit, 4 personnes, c'est pas beaucoup, et on reçoit 150 manuscrits, c'est-à-dire environ un tous les deux jours. Néanmoins, on essaie de faire en sorte que les délais soient raisonnables, c'est-à-dire que, par exemple, on a épuisé, excusez-moi du terme, mais c'est un peu pas ça, tous les manuscrits 2019 en 2019. Donc, c'est-à-dire que les délais n'excèdent pas un an, mais en règle générale, c'est entre 3 et 6 mois pour une réponse ou négative ou positive, sûr. Alors, la procédure est relativement simple, on va sur le site internet des éditions sans escale, on met son manuscrit sur la petite icône réservée à cet effet et on envoie de manière dématérialisée son manuscrit. On ne reçoit, nous, aucun manuscrit papier pour plein de raisons, pour des raisons pratiques et puis pour des raisons parfois écologiques également. En tout état de cause, c'est relativement simple et il n'y a aucun pré-jugement des manuscrits qui nous arrivent, c'est-à-dire qu'on est vraiment totalement ouvert à toute forme d'écriture. Après, comme toute petite structure, on ne peut pas publier 50 manuscrits par an, donc on est actuellement sur 10 à 9 manuscrits par an, ce qui conduit à faire des choix extrêmement difficiles.
Vous organisez et participez aussi à des rencontres littéraires en tant que maison d'édition.
Oui, tout à fait. Donc, on participe au Salon du Livre de Paris depuis maintenant 2 ans. Nous y serons d'ailleurs au mois de mars, grâce d'ailleurs aux efforts que fait la région Île-de-France pour accueillir de nouveaux lecteurs. Nous sommes également au Salon du Livre de Bordeaux, de Saint-Mandé, d'autres salons du livre à Paris. Des salons du livre plus liés à des arrondissements ou des mairies. Et par ailleurs, nous organisons très régulièrement des soirées littéraires au boulevard Saint-Germain, notamment à la Société d'explorateurs français, qui nous accueille gentiment afin que nous puissions faire connaître nos auteurs, la maison d'édition et de manière plus générale la littérature.
En conclusion, Valérie Mollet, est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose? Je vous remercie pour nous avoir présenté les éditions. Est-ce qu'il y a quelque chose, un autre aspect que vous souhaiteriez aborder?
Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour nous avoir invités, parce que c'est toujours la radio, comme la presse, des endroits qui permettent de mieux nous faire connaître. Nous, on aspire qu'à une chose, hein, l'équipe que nous formons, les écrivains que nous sommes, puisque une partie de l'équipe est formée aussi d'écrivains et de poètes romanciers ou nouvellistes, nous aspirons à découvrir de nouveaux textes, donc il ne faut surtout pas hésiter à envoyer des textes aux éditions sans escale pour nous permettre de découvrir de jeunes ou moins jeunes talents, mais en tout cas des talents, ça c'est clair, et nous souhaitons très vivement pouvoir développer notre maison d'édition dans les années qui viennent, avec les difficultés évidemment matérielles qui sont liées, mais aussi avec l'espoir de mieux faire connaître la littérature contemporaine, et je le répète encore, la littérature contemporaine faite par des écrivains vivants, puisque la création, et fort heureusement, continue d'être importante et forte en France aujourd'hui.
Je pense que les auditeurs qui écrivent prennent bonne note de ce que vous nous dites. On vous remercie, Valérie, et merci beaucoup. Au revoir.
À très bientôt.
À très bientôt, au revoir. Thank you. Pour illustrer les parutions des éditions Sans Escale, je vais vous lire un extrait de L'Impasse du Salut, un roman écrit par Maximilien Frisch. Déjà une petite présentation de L'Impasse du Salut raconte la chute de l'homme ordinaire dans notre monde postmoderne. Renaud Mann, qui est le héros, est en prison parce qu'il a tué. Il était pourtant tout à fait quelconque, un homme de ce monde haïssant le monde comme beaucoup de ses semblables. Au seuil de la dernière ligne droite, au démarrage d'une retraite légèrement anticipée, après une carrière tout à fait estimable, ce père de famille, à qui ses propres enfants font désormais la morale, va se laisser piéger par le mal. La petite société qui l'entoure n'y pourra rien, condamnée qu'elle est à se figer dans le décor. Au creux d'un emploi du temps vidé de tous ses divertissements, l'homme va d'abord goûter au ridicule de sa situation. Après avoir été ce DRH broyé par le monde du travail, le voici désœuvré et sans utilité sociale. Le mépris qu'il éprouve pour sa personne n'est que l'image du dégoût que lui inspire la société. Dès lors, autant s'abandonner, se laisser faire doucement et trahir tout ce qu'il fut, tout ce qu'il a aimé, pour tout gâcher, pour mieux mériter le coup de grâce. Le salut ne peut-il venir que par le crime ? Je lis l'extrait. Il se croit en vacances. Il ne fait rien de ses journées. Tu ne lis même plus. Tu devrais t'intéresser un peu à l'actualité quand même. Je crois qu'à ce rythme, il va vite vieillir. Je comprends que l'entreprise l'ait fait partir. Il n'a aucun centre d'intérêt à part lui-même. Il traîne les pieds maintenant. Mais fais quelque chose plutôt que de nous tourner autour. Ce n'est pas que ces phrases le blessent, mais plutôt qu'elles tendent à annoncer une réduction de sa liberté. Il n'a pas envie que cela recommence, comme quand il était enfant. Montre-moi ton cahier de texte tous les jours. Il faut qu'il alimente suffisamment son entourage pour avoir la paix. Il veut simplement être peinard. Avec le temps, on est tout seul, mais peinard. Avec le temps, on n'aime plus. Avec Léo Ferré, il se fait chanteur de salle de bain, de garage, de lieux où il est seul. Il faudrait qu'il affiche un intérêt croissant pour un sport ou une activité bien ciblée, quelque chose où il ne pourrait pas être mis en défaut par des questions interrogatoires qui le feraient échouer et perdre sa crédibilité. Ah, l'imbécile ! Ne surtout pas passer pour un passionné non plus. Il ne voudrait pas susciter la niaise bienveillance de la part d'un entourage qui se pencherait d'un coup sur lui pour trouver pas si mal ce qu'il fait. Il ne voudrait pas se sentir revenir au berceau. Ce serait un véritable chemin de croix, une humiliation comme une autre cependant. Mais il ne se voit pas la désirer.
La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue main sans grand deuil, douleur majestueuse. Une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble avec sa jambe de statue, moi je buvais crispé comme un extravagant. Dans son œil ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine, le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit, fugitive beauté, dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité, ailleurs bien loin d'ici, trop tard, jamais, peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Et voici un extrait du dernier roman écrit par Valérie Mollet, Au fond de la rade, roman paru aux éditions La Nouvelle Marge. Déjà la présentation du recueil. Il existe un moment où il faut soit se suicider, soit reprendre sa vie en main. Généralement, on oscille entre ces deux alternatives et on appelle cela vivre, tout court. Ce qui est tout bonnement le comble de rien de tout. Mais ce qui est bien avec l'échec, c'est qu'il ne détruit jamais la réussite toujours renaissante. Il faut être capable de sortir du cycle contre-véritable de la vie quotidienne. Alors un miracle s'opère, les passions tristes disparaissent. La liberté n'est plus le contre-jour de la nécessité. Vous sentez renaître en vous la vertu de la jeunesse qui n'a pas d'âge. Le monstre est réhabilité, la vie doit éclater. Il n'y a pas une parcelle de libre pour la consternation, l'envie et les bilans. Tout est démesurément trop petit. Seuls les châteaux de sable ont de la valeur. À la fin de tout, il n'y aura plus de comptabilité. La vie sociale sera perçue comme une vaste galéjade. Les idées vous feront vomir. Il ne restera que quelques phrases et les êtres que vous avez aimés. Je vous laisse le soin de choisir entre l'éternité et la réussite. Comme le héros de ce livre, vivez dans un sous-marin en Bretagne afin de n'être plus à l'étroit dans notre immensité. Ce gai roman est le récit de la renaissance d'un homme voué aux défaites parfaites. Lecture de l'extrait. Grâce à son périple sous-marinier, Beauval avait entreaperçu quelques fulgurances de sens. La rencontre avec le requin pèlerin, placide, majestueux et stupide, avait résonné comme une révélation. Il avait associé cet animal à son père, la bouche bée, happant du plancton, avançant dans la vie avec cette tranquille assurance de qui sait savoir ce qu'il sait. Le père de Beauval savait qui était le père de Beauval. C'était une différence de taille avec Beauval lui-même. Il avait été bouleversé par le décès de son père. Bien sûr, vu de l'extérieur, cela semblait normal. Cependant, en poussant le pion sur l'échiquier, cette normalité s'avérait douteuse. En effet, Beauval n'avait rien d'un sentimental. Et, en vieillissant, cette absence de sentiment avait affranchi ses penchants les plus sombres. Dès lors, le décès de son père aurait dû l'affecter, mais ne pas transformer radicalement son approche de la réalité. Or, la réalité avait totalement changé. Beauval avait fait une grave dépression et sa mélancolie avait revêtu le squelette d'un brontosaure. Plus rien ne l'intéressait, pas même les femmes, qui avaient toujours été le dernier refuge pour lutter contre les périodes glaciaires. Avec son père, il était mort à une certaine forme d'esthétique vitale. Il n'y croyait plus. La croyance est à l'origine de la vie. On croit être beau, fort, subtil, intelligent. Quand on se met à ne plus y croire, très peu de choses résistent à l'examen critique. Devenu incroyant, la volonté de puissance éteinte, vous devez être très robuste pour ne pas sombrer dans la folie ou la catatonie. Beauval avait tenu le choc, mais sa mort métamorphose avait été absolue. Demander à une Marguerite de se pencher sur leur destin d'un épouilleur, peut-être aurez-vous une vague idée de ce qu'il ressentit. Puis au fur et à mesure que le souvenir paternel s'estompait, que les cendres s'évanouissaient dans son cœur balayé, la barque quotidienne avait retrouvé les canaux, les rivières et pour finir le grand large. Mais il n'y avait plus rien. Ses enfants étaient partis, sa femme l'avait quitté, ses bibelots l'incommodaient. Tout son univers avait été gobé par il ne savait quelle force. Il marchait désormais sur ses coquilles d'œufs fous au sol. Cela crissait, mais ne lui disait plus rien. Et un matin, il avait décidé de tout bazarder. Le bazar conditionnait le bonheur.
Aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis, ton père, ta mère, ta sœur, ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis, vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie, j'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté, je l'aimerais volontiers, déesse immortelle. L'or,
je le hais, comme voix ici tu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux nuages.
Allons maintenant à la rencontre de la poésie de Valérie Mollet au travers de poèmes publiés par La Petite Hélène Édition dans Aucune encre au fond de l'abîme. Sur la plage de l'île de Sein, les rocs sénants qui défaillent toutes les 6 heures cartographient tes grains de beauté. Petits poussés des névus à l'encre desquels s'amarre le sable de fresques brunes de ta peau. C'est une plage pailletée, analogue à tes rouges à lèvres, et l'anse y conforme ta bouche et le bleuissement titré de tes yeux. C'est une plage ambidextre où tes caresses crapahutent précipitamment sur mon corps, puce de sable qui sautille sur la schlague de mes frissons. L'ombre s'efface si ta chair se rue alors que le soleil bricole, nous assourdissant. Un tatouage qui s'estompe ou se dérobe, mord ton omoplate. Car tu t'offres un ennemi au zénith qui se fait du mouron quand ton épaule ploie sous ta serviette griffée. Ces derniers temps, le bonheur m'a indigné comme un jugement moral. Le silence éteint, chuinté sur une orbite de travers. Je laissais tous mes livres nonchalamment sur la grève, tel un décompte de mon faste funéraire. Je me crus bâché d'une pré-mort, pas d'autre mot, si intruse que la disparition du préfixe ne m'eût pas rendu la santé. La mort ne m'eût pas plus démuni, pourtant tu ne promis rien. Peu importe l'absence des promesses, la mer remonte enfin, son droit est même publicitaire. Les gamins jouent comme ils recréaient à 10 ans. L'enfance est l'œuvre imprécise d'une revanche. L'embarcadère brame précisément à 18 heures. Ta main s'affermit sur ma joue qui rabiote ta main. Tes ongles me couronnent en poinçonnant un périple dorsal sans aucune étape confirmée. Ton amour est anarchique comme tes sentes inguéales. Ce sont tes désirs qui bâtissent des abris sur mes vertèbres, qui se rebiffe et crisse, carapace de crabe, sur sous ton pied, si dansant et veineux. Tes veines incarnent l'acrylique sur bleu de tes yeux, cette couleur inventée pour un autre homme que je découvris sous le bail de ta si jolie joie. Mon amour, la mort n'a plus de prétexte ni de cadavre prématuré que ton étrave a écarté. Un autre poème, Paris. Les chantiers de Paris forment un nouveau chandail. Les belles canalisations flamboyantes d'ouvriers et de Gaspard récurent les déchets élégamment. L'aube est une mauviette sans les marteaux piqueurs, les échafaudages vers de terre mutants, volant d'étage en étage, resplendissent sous les astres. Ce sont les yeux difformes des vers et les candélabres, les immeubles appareillent enfin le ciel. Palais de justice, accueille tes truands dignement. Ils sont fiers de franchir les marches de béton, de verre avec leurs menottes végétales. J'aime les usines de tri et d'incinération sans panache, gouffres d'aimants, tels des baleines aux phalènes brisées, percutées d'embâcles. Et les déchetteries si propres qu'on mangerait dedans, près d'un frigo réformé. Les grues et chassières tremblent sous le poids du cimetière aurifère. J'adore l'odeur de la spéculation immobilière, cela vous rend vivant. Nous écoutions un extrait de Aucune encre au fond de l'abîme à La Petite Hélène Édition. Je vous ai également lu un extrait du roman de Valérie Mollet Au fond de la rade, aux éditions La Nouvelle Marge, et un extrait du roman L'impasse du salut, écrit par Maximilien Frisch, paru aux éditions Sans escale, pour lesquels nous recevions Valérie Mollet qui nous présentait les éditions. «